Frères et sœurs, en ce temps de l'Avent qui nous fait irrésistiblement entrer dans le temps de Noël, je me suis dit que nous pourrions lire non seulement le premier texte du Nouveau Testament, mais aussi le premier chapitre de l'Évangile selon Matthieu, qui en quelque sorte pose les bases de la naissance de Jésus. C'est cette généalogie de Jésus. Et je me suis dit que pour ressusciter la magie de Noël, nous pourrions nous octroyer une sorte de petite coquetterie, lire cet évangile en grec. Parce que c'est très simple, c'est tellement répétitif qu'il suffit de savoir que egenesen, ça signifie engendra, et le reste viendra de surcroît, à peu de choses près. Biblos Genesios, livre de la Genèse. Jésus Christou, Jésus-Christ. Uyo David, fils de David. Uyo Abraham, fils d'Abraham. Est-ce que ce n'est pas simple comme l'Évangile tout cela? Abraham et Genesen ton Isaac. Je n'ai perdu personne jusque-là. Isaac de Egenesen ton Jacob, Jacob de Egenesen ton Judan, Kai tu Adelphus autu, et ses frères. Judas et ses frères. Judas de Egenesen ton Phares, Kai ton Zara, ek tes Tamar, ek hors deux, Tamar, c'est la fameuse Tamar. Ectes Tamar. Phares de Egenesen ton Esmon. Esmon de Egenesen ton Aram. Aram de Egenesen ton Aminadab. Aminadab de Egenesen ton Nasson. Nasson de Egenesen ton Salmon. Salmon de Egenesen ton Bos. Ectes Rahab. À partir de Rahab. Bouze, c'est celui qui est bien connu par le poème de Victor Hugo. Bos de Egenesen ton Yobed, ectes Ruth. Yobed de Egenesen ton Yesai, Yesai de Egenesen ton David, to Basilea. David, le roi. David de Egenesen ton Salomona, Salomon. Ectes tu Uriu. Ectes tu Uriu, depuis celle d'Uri. Autrement dit, il engendra Salomon avec la femme d'Uri. Salomon de Egenesen to Roboam, Roboam de Egenesen to Abia, Abia de Egenesen to Asaf, Asaf de Egenesen to Josaphat, Josaphat de Egenesen to Yoram, Yoram de Egenesen to Otsian, Otsias de Egenesen to Yomatan, Yomatam de Egenesen to Aratz, Aratz de Egenesen to Ezekian, Ezekias de Egenesen to Manassé, Manassé de Egenesen to Amos, Amos de Egenesen to Yosian, Yosias de Egenesen to Yeronian, Kaitu Adelphus Aoutou. Et ses frères. Epi tes metoikesias babylonos. Epi, au moment d'eux, tes metoikesias babylonos, c'est souvent traduit par la déportation de Babylone à Babylone, le moment où ils ne sont plus chez eux, ils ne sont plus dans leur maison. Meta den metoikesian babylonos, donc après cette déportation Babylone, disons, Hieronias egenesen ton salatiel, Salatiel de Egenesen ton Zorobabel, Zorobabel de Egenesen ton Abiud, Abiud de Egenesen ton Eliakim, Eliakim de Egenesen ton Azor, Azor de Egenesen ton Tzadok, Tzadok de Egenesen ton Arim, Arim de Egenesen ton Eliud, Eliud de Egenesen ton Eleazar, Eleazar de Egenesen ton Matan, Matan de Egenesen ton Jacob, Jacob de Egenesen ton Yosef, ton Andra Marias, l'homme de Marie, ex es egenete, là c'est un passif, de qui fut engendré Jésus, ô legominus Christos, celui qu'on appelle Christ. Passai sun ai geneai apo Abraham et os David, geneai decatesares, donc toute génération comptée, ça fait 14 depuis Abraham jusqu'à David. Kai apo David eos tes metoikesias babylonos geneai decatesares. Et donc, depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, il y eut 14 générations. Kai apo tes metoikesias babylonos eos tu Christu geneai decatesares. Et depuis la déportation jusqu'au Christ, il y eut 14 générations. Est-ce que c'est clair? Bien. Allez, petite pause. On retrouve notre bonne langue de Jean Calvin et de Théodore de Bèze au cantique 178, les strophes 1, 2 et 3. Éternel, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus approfondie de ton évangile. Et que jamais le passé ne nous enferme, mais que ton esprit nous mette en marche. Chers frères et sœurs, en ouvrant son évangile sur cette généalogie, le scribe Matthieu produit, mine de rien, le texte peut-être le plus subversif de la Bible. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il était utile de nos jours de le lire en grec, c'est que c'est peut-être un texte qui devrait être interdit au moins de 18 ans. Et donc, vous pourriez mettre un bandeau, interdit au moins de 18 ans. C'est un texte subversif que l'Église a décidé de placer en tête de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau Testament, ce qui laisse entendre quelque chose du déchristianisme primitif. Et nous allons voir en quoi ce texte est aussi bien subversif par la forme que par le fond. La forme, tout d'abord. Pour qui prend le temps de rentrer dans le détail du texte sans se précipiter immédiatement sur l'histoire de Gabriel, de l'étoile, des mages? Cette généalogie est l'occasion de bien des troubles. Déjà, elle diffère sérieusement de la généalogie produite par l'évangile de Luc. Vous pourrez tout à l'heure chez vous comparer les deux. Luc n'a que 17 noms en commun avec Matthieu. 17 sur 42. C'est pas énorme. Ensuite, nous avons entendu qu'il y a trois séries de 14 noms, hein, 14 générations, en trois séries. Eh bien, ces trois séries, dont on dit qu'elles contiennent 14 générations, n'en contiennent pas chacune 14. Ça serait trop beau. La deuxième en contient 15, la première en contient 13. Et encore, cela varie selon ceux qui lisent ces généalogies. Et si on prend la première série, par exemple, 13 générations pour une période qui s'étale sur 800 ans. Ça fait un enfant tous les 62 ans. Ce qui est à peine mieux pour les supposées 14 générations du retour d'exil à Jésus, qui devraient courir 600 ans. Un enfant tous les 42 ans. Quel bon moment pour être père, ceci dit. D'ailleurs, dans cette troisième série, il est manifeste que les enfants de Zorobabel ne sont pas les bons, du moins si l'on se réfère au premier livre des Chroniques au chapitre 3. Mais la deuxième série n'est guère meilleure sur ce plan-là, puisqu'elle passe sous silence Amatsia, Azaria, Jéhoakim et Sédécias. Bref, il ne s'agit donc pas d'un récit qui serait digne d'un arbre généalogique constitué par la Société d'histoire du protestantisme français. Il s'agit d'une pure construction théologique destinée à nous dire qui est celui qui vient en bout de chaîne. Non pas à dire les choses telles qu'elles se sont passées, mais donner du sens à l'histoire qui s'est déroulée. Je continue avec les aspects purement formels. Interrogeons-nous sur la signification de ces trois séries de 14 noms clairement revendiqués par Matthieu, puisque c'est tout l'objet du dernier verset que j'ai lu, le verset 17. Il a pris soin d'avoir des listes incohérentes, qui ne contiennent pas chacune 14 noms, tout en disant qu'elles ont bien sûr 14 noms. 14 est un nombre intéressant, surtout si l'on se souvient que David occupe une place importante dans cette série, puisque David, en hébreu, a pour valeur numérique 14. Si on prend les trois lettres hébraïques qui forment le nom David et qu'on les additionne, 6 plus 4 plus 10, ça donne 14. C'est peut-être une manière de dire que Jésus, dont il va être question dans la suite du livre, est un nouveau David, ou plus exactement, celui qui va recevoir l'héritage de David, dont il est dit en 2 Samuel 7 que sa maisonnée va être affermie et qu'il sera à jamais sur le trône d'Israël. Pourquoi trois fois ? Trois fois 14 ? Eh bien, il y a peut-être deux raisons à cela. La première raison est d'obtenir 42. 3 fois 14, cela ne vous aura pas échappé, cela fait 42. 42, c'est un nombre qui tombe plutôt bien dans la pensée biblique. C'est en quelque sorte 6 fois 7, c'est-à-dire 6 sabbats. 42, c'est le nombre d'années que les Hébreux vont passer entre la sortie d'Égypte et l'entrée en terre promise, selon la tradition des Septantes. Arriver au terme de 42, c'est peut-être se placer dans la posture de Josué qui fit entrer le peuple en terre promise après l'extinction de la génération précédente au terme de ces 42 années. Et si l'on se souvient que Jésus en grec signifie Josué en hébreu, on peut se dire qu'il y a là, sous la plume du scribe Matthieu, très versé dans le Premier Testament, le désir d'inscrire aussi Jésus dans la continuation de Josué, celui qui est capable de nous faire entrer dans cette terre promise, promise à Abraham, justement, dont il est question par ailleurs. Autrement dit, une façon de dire que celui qui doit s'appeler Emmanuel, car c'est de cela dont il est question dans l'Évangile selon Matthieu, donner naissance à un enfant qui sera appelé Emmanuel, va en fait s'appeler Jésus, parce que Jésus signifie Josué. C'est une hypothèse de travail, ne le prenez pas pour argent comptant, mais ça fait sens. L'autre raison est peut-être liée à la construction de ces trois séries, une construction qui est expliquée dès le premier verset, par le fait que Jésus-Christ, David et Abraham sont rassemblés dans une même formule. Et peut-être que ces trois noms liés ensemble expliquent la bizarrerie du verset 16. Au verset 16, il y est question non pas du Christ, mais question, je ne sais pas comment le restituer en français, de Christ en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le pronom personnel, le, qui n'est pas un pronom personnel d'ailleurs. L'article définit le. Ici, au verset 16, Christ est envisagé comme un nom propre. Il n'y a pas l'article devant. Et ça, c'est une bizarrerie parce que jamais cela ne sera la même chose dans le reste de l'Évangile selon Matthieu. C'est toujours Jésus-Christ ou le Christ, mais jamais Christ tout seul. Il y a là peut-être cette petite allusion au fait que Christ en grec signifie Messie en hébreu, Mashiach. Et si on a Abraham, David et Mashiach, nous avons les trois initiales qui forment Adam. A-D-M, Adam. Abraham, David, Messie. Et cela n'est pas sans rappeler que l'évangéliste Luc, justement, commence la généalogie de Jésus avec Adam. Et Adam, ce n'est pas le personnage historique Adam, c'est tel que le traduit la Septante, la version grecque de la Bible, Anthropos, l'homme. Autrement dit, l'occasion de dire que Jésus s'inscrit bien dans l'humanité, que ce n'est pas un être hors sol, mais qu'il plonge ses racines à toute génération dans cette humanité qui sert de fil conducteur à l'histoire du salut. Autrement dit, Matthieu nous propose un parallèle saisissant avec la généalogie que nous trouvons aussi en Genèse 5, qui commence de la même manière, livre de la Genèse d'Adam. Vous voyez, finalement, le grec, c'était plus simple. Là, je sens qu'il y a un petit flottement. Vous n'êtes pas encore complètement perdu, mais il y a un petit flottement. Que faire de cette densité d'informations que l'évangéliste s'est manifestement ingénié à rassembler? Eh bien, peut-être que nous pouvons retenir que Matthieu, en écrivant cet évangile, ne va pas se contenter de raconter la vie telle qu'elle fut. Matthieu a une intention en tête en rédigeant cet évangile. C'est de nous faire découvrir le sens que la vie de Jésus a eu pour ses disciples. Non pas d'essayer de faire une description objective, comme une caméra qui filmerait les événements les uns après les autres. Plutôt hiérarchiser, mettre en perspective, donner du sens à ce que les disciples ont éprouvé. Essayer de communiquer ce que Jésus a transformé dans leur vie, de quelle manière il a changé leur regard. Et qui dit changer de regard sur la vie, dit changer de regard sur l'histoire, dit raconter l'histoire autrement. Et donc, le scribe Matthieu, en tordant l'histoire, si nous avons une compréhension moderne de l'histoire, va être au plus juste de l'histoire réelle, celle à laquelle les disciples de Jésus ont été confrontés. Une histoire se peut être comprise comme une succession ininterrompue de causes et d'effets, une sorte d'enchaînement implacable qui confine quasiment au non-sens, à l'absurde. Eh bien, désormais, c'est ce que l'évangéliste Matthieu va s'employer à nous faire sentir, désormais l'histoire a du sens. Et c'est aussi cela que contient cette généalogie que nous allons maintenant scruter au cœur. Vous l'avez entendu dans le grec, qui est assez fluide finalement, une sorte de répétition inlassable, il y a quatre moments où cette fluidité bute sur un accro. Et il me semble que ce sont ces quatre moments-là qui sont les moments décisifs sur lesquels le scribe Matthieu veut attirer notre attention. Ce sont les quatre moments où nous n'avons pas simplement l'homme qui engendre son fils, mais ces moments où il y a aussi la mention de la mère. Ek, tes, et vous rajoutez le prénom ou le nom de la personne en question. Et nous avons là quatre femmes qui interviennent dans une généalogie particulièrement patriarcale et qui précèdent en quelque sorte Marie, qui est la cinquième. Quatre anomalies dans cette succession tout à fait fluide et lisse, qui sont d'autant plus des anomalies qu'elles posent un sérieux problème, et c'est là que l'évangile devient encore plus subversif et que, pour les moins de 18 ans, il va falloir être sous le contrôle parental. Ces quatre femmes interrompent le déroulement régulier de l'histoire, de ces hommes qui engendrent des fils, ce qui d'ailleurs est le cas habituellement dans toutes les généalogies bibliques. Ces quatre femmes sont finalement comme quatre grand-mères de Jésus, c'est ainsi que j'aimerais qu'on les nomme. Et ces quatre grand-mères de Jésus ne passent pas inaperçues dans le tableau de famille. Ces quatre femmes sont vraiment à redécouvrir pour comprendre les raisons pour lesquelles l'évangéliste les a placées délibérément dans cette histoire. La première, c'est Tamar. On la rencontre au chapitre 38 du livre de la Genèse. Pour résumer brièvement son histoire, disons que Tamar va décider d'avoir un enfant, Judas, avec son beau-père. On comprend que déjà, rien que ça, c'est un peu subversif. Mais si on se souvient qu'en plus, Tamar fait cela après avoir essayé d'avoir un enfant avec chacun des fils de Judas, sans y parvenir, on mesure mieux l'intention qui préside à la mention de Tamar dans le livre de la Genèse et dans cette généalogie. Tamar décide de coucher avec son beau-père, en plus en se faisant passer pour une prostituée. Tant qu'à ce que le tableau soit complet, autant y mettre tous les détails. Pour que quoi finalement ? Pour que Judas, le fils de Jacob, le petit-fils d'Isaac, l'arrière-petit-fils d'Abraham, ait un fils, et que ce fils permette à la promesse de descendance d'Abraham de pouvoir se réaliser. Tamar transgresse la morale, couche avec son beau-père, en se faisant passer pour une prostituée, de manière à ce que cette promesse se réalise. De manière à ce que l'histoire ne s'arrête pas là. Ensuite, il est question de Rahab. Rahab, elle, ne se fait pas passer pour une prostituée. Elle est une prostituée. On la rencontre dans le deuxième chapitre de Josué, au moment de l'entrée en terre promise. C'est aussi une étrangère qui vit dans le mur de la ville de Jéricho. Que va faire Rahab ? Elle va recevoir chez elle deux éclaireurs qui ont été envoyés par les fils d'Israël pour sonder le terrain et éviter d'avoir de mauvaises surprises sur le plan militaire avant l'entrée en terre promise. Elle va protéger ces deux éclaireurs, ces deux espions, des habitants de Jéricho qui aimeraient bien les liquider. Et elle va donc permettre au peuple d'avoir les renseignements utiles pour faire cette entrée en terre promise sans risque majeur. En échange, elle aura non seulement la vie sauve, mais elle épousera un fils d'Israël. Ensuite, il y a Ruth, une étrangère, qui va donner un descendant à Boaz, et cela contre la loi en vigueur. Les fils d'Israël n'épousent pas des étrangères. Ça ne se fait pas. Alors, qu'une fois de plus, l'histoire de la descendance d'Abraham est menacée, puisqu'il n'y a pas de descendant. Le nom risque de s'éteindre. La lignée risque de disparaître. Et Ruth prend sur elle de changer cet effacement inexorable. Enfin, il y a la femme d'Uri, le Hittite, donc un étranger. C'est Bethsabée. Bethsabée qui plut à David et qui fut enceinte de lui alors que son mari, soldat, était au front. David et Bethsabée mettent en place un petit stratagème pour faire comme si c'était Uri qui était le père, mais la probité d'Uri fait qu'il n'aura pas de relation sexuelle avec elle et donc le subterfuge tombe à l'eau. Du coup, David monte un plan pour le faire mourir dans une embuscade. Il épouse Bethsabée, il jure beaucoup d'enfants, notamment Salomon. Voilà. Voilà quatre femmes qui précèdent Marie et qui, par leur comportement, laissent songeur. Pourquoi ces quatre grand-mères plutôt que Sarah, plutôt que Rebecca, plutôt que Léa? Il y avait d'autres femmes célèbres qu'on aurait pu convoquer. Non, ce sont ces quatre-là. Voyez à quel point cette généalogie est subversive, parce que toutes ont en commun d'avoir transgressé la morale, d'avoir transgressé les usages, d'avoir transgressé les frontières. Toutes ont en commun de donner à Jésus une filiation bien particulière qui dit quelque chose qui règne dans la famille, une sorte d'esprit de famille dont pourra hériter celui qui se situera dans le sillage du Christ. Les disciples, vous et moi. Ceux qui revendiquent le titre de chrétien s'inscrivent dans cette généalogie-là. Alors, je retiens deux points qui font sens. Le premier point notable est l'universalisme qui règne dans cette généalogie qui franchit les frontières d'Israël pour passer par des figures étrangères. Bien avant que les mages arrivent de l'Orient, eh bien, les grands-mères de Jésus font déjà souffler le vent du large, qui donne à penser qu'il n'y a pas dans la pensée biblique de fantasme de race dans l'élaboration de l'identité. La pureté ne se fait pas non plus en fonction de la religion, car ces femmes étrangères, si elles honoraient le Dieu vivant au plus profond de leur être, n'étaient pas les esclaves d'une forme particulière de religion, et en tous les cas, pas celle des fils d'Israël. Et les hommes qui les ont connues n'ont pas jugé qu'elles étaient indignes de la promesse divine d'une vie rendue féconde au prétexte qu'elles ne suivaient pas les 613 mitzvot de la Torah. Ces hommes les ont plutôt honorées de cet élan tout religieux qui consistait à reconnaître que par-delà les frontières, par-delà les marqueurs identitaires, la véritable valeur des personnes, la valeur intrinsèque de l'humanité réside en chaque individu, indépendamment des étiquettes dont il se couvre ou qu'on lui colle. L'universalisme dont cet évangile est porteur relativise aussi bien la morale que la race, que la religion, qui ne tiennent plus lieu d'ultime, si nous accordons quelques crédits à l'évangile. Cette généalogie est subversive. Deuxième point notable, c'est le sens des responsabilités dont ont fait preuve ces femmes. Transgresser la morale pour que l'histoire ne s'arrête pas soudainement, voilà ce dont il est question ici. Voilà des femmes qui se sont levées contre le vent de la fatalité pour faire valoir l'esprit de liberté qui anime les enfants de Dieu, celles et ceux dont le cœur bat de l'intensité de ces paroles qui font exister ce qui n'est pas, qui font advenir ce qui n'a plus d'espoir. Dans le tohu-bohu de la vie, ces personnes font retentir les paroles qui font émerger la vie du chaos, allusion directe au chapitre 1 du livre de la Genèse. Ce sont ces paroles qui disent et redisent « soit », comme un impératif catégorique, « soit », « soit lumière », « soit un firmament », « soit une terre habitable », « soit en dépit de l'usure du quotidien », « soit », « soit grouillant de vie », « soit en dépit de l'hostilité », « soit en dépit des faiblesses », « soit en dépit du qu'en dira-t-on », « soit en dépit de la doxa, des effets de mode, de la pensée ambiante », « soit vraiment de telle manière que tu te mettes à faire histoire ». Ne baisse pas les bras, n'abandonne pas encore. Ne te laisse pas aller à la résignation, mais engendre, entreprends. Sois l'auteur d'un nouvel arbre généalogique. Redonne de l'élan à la promesse. Réinjecte du possible dans le cours des événements. Ne laisse pas les choses en l'état, car tout système livré à lui-même finit par s'épuiser. Deuxième loi de la thermodynamique. Réinjecte donc de l'énergie, réinjecte du désir, réinjecte de l'audace, réinjecte des questions, réinjecte de nouveaux défis à relever, réinjecte de ta singularité, réinjecte ce que tu es en dépit des difficultés, en dépit de la morale, en dépit des barrières, en dépit de tout ce qui pourrait freiner l'élan divin. Subvertis la réalité. Ces femmes sont autant de figures théologiques qui révèlent que le cours de l'histoire relève de notre responsabilité personnelle. On peut toujours se demander si aujourd'hui Barack Obama aurait rétabli quelques relations avec la famille Castro, s'il y a quelques dizaines d'années, une certaine Rosa Parks n'avait pas refusé de se lever dans un bus du côté de Montgomery, créant ainsi ce mouvement des droits civiques américains relayé par Martin Luther King. Mais cela n'est pas qu'une affaire de femmes. À chaque fois qu'une personne se lève et résiste aux forces qui mettent à mal la promesse divine d'une génération grouillante de vie et d'une terre habitable, eh bien à chaque fois qu'une personne se lève, elle s'inscrit dans la généalogie de Jésus qui fait advenir l'histoire telle qu'elle est espérée dans les textes bibliques. Ces femmes, ici, en tous les cas, révèlent qu'elles n'ont pas attendu sagement des jours meilleurs en rentrant la tête dans les épaules et en attendant que ça se passe. L'avant, le temps de l'attente, est un moment actif, interactif et certainement pas passif. Ces femmes révèlent notre capacité de subversion. Nous ne sommes pas comme des petits fétus de paille ballottés par le cours de l'histoire ou de la mondialisation. Nous avons la capacité d'interagir avec notre environnement, d'interagir avec la société, de pouvoir donner des impulsions à l'histoire. Ces femmes ont incarné ici et maintenant, et non pas dans un au-delà putatif. Elles ont incarné ici et maintenant l'espérance divine, quitte à emprunter des chemins de traverse, quitte à sortir des sentiers battus. Elles ont incarné ce désir d'une vie portée à son absolu. Et c'est en incarnant cela qu'a pu s'incarner l'espérance divine, qu'a pu s'incarner le désir divin, cette volonté d'une vie où la justice ne cède pas devant les contingences du moment, d'une vie où les individus ne sont pas écrasés par quelques intérêts particuliers, d'une vie où l'histoire n'est pas en panne, d'une vie que Jésus a lui-même incarnée au point qu'on l'a appelé Christ. ce qui peut être rendu par la périphrase « L'espérance de Dieu devient histoire ». Ça s'incarne, ça devient chair, sang et eau qui transpire du front. Jésus est donc celui dont la Bible, dès les premiers mots qui le concernent, dit qu'il est le fruit du laborieux travail de Dieu qui inspire à des hommes et à des femmes des initiatives pour produire des ressorts à l'histoire lorsque celle-ci est malmenée ou qu'elle risque de s'achever par un épuisement de solutions. Pas plus que les bébés n'arrivent tout seuls dans les choux ou dans les roses, l'avenir ne tombe pas tout cuit du ciel. L'avenir est engendré. C'est cela le sens de cette généalogie. L'avenir est engendré par des hommes et des femmes qui suscitent et ressuscitent en permanence la passion de vivre. Ces hommes et ces femmes qui ont cette passion d'ouvrir la vie à l'universel, par-delà toutes les clôtures derrière lesquelles nous sommes enfermés. Cette généalogie, donc, n'est pas à reléguer dans un coin de notre bibliothèque. Nous ne devrions jamais entamer notre lecture de l'Évangile selon Matthieu sans passer religieusement par cette généalogie, avec une profonde déférence. Car aussi bien par sa structure que par l'histoire qu'elle raconte, cette généalogie, ce livre de la Genèse de Jésus, nous appelle immanquablement, sans ambiguïté, à bousculer le train-train de l'histoire, à prendre appui sur des points choisis et non pas des points subis, à donner du sens au moindre aspect du quotidien, à ne pas s'enfermer dans le registre des certitudes. Notez qu'ici, le lien biologique n'est pas le lien qui prédomine. À ne pas s'enfermer donc dans le registre des certitudes, que ce soit les certitudes du sol, les certitudes du sang ou celles de la religion, car la foi, cette foi dont il va être question dans tout cet évangile, cette foi nous porte par-delà ces considérations, par-delà ces contingences, je dirais, et la foi dont cet évangile va nous parler tout au fil des chapitres consiste à arracher notre vie à tout ce qu'il y a de plus mortel dans notre existence. Et si vous allez jusqu'au bout de l'évangile de Matthieu, vous verrez qu'il s'agit d'arracher tout ce qu'il y a de plus mortel jusqu'à vider intégralement le tombeau de notre existence et à faire trôner notre histoire en bonne place. Oui, le livre de la Genèse de Jésus, cette généalogie qui figure au début de notre évangile de Matthieu et donc de notre Nouveau Testament, parle déjà de la dynamique de Pâques, qui n'est ni plus ni moins une dynamique de la subversion. Amen.